Диск 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Les secrets du muséum.
Speaker A.
Le Muséum national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles situé à Paris. Ce musée est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle disséminés en France. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer la recherche et explique les sciences au grand public. Tous ceux qui y travaillent ont la passion des sciences. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temps.
Speaker B.
Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. On y naturalise des animaux que des zoos ou l'Office national des forêts retrouvent morts et qu'ils nous donnent. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. Il faut être calé en anatomie, en chimie organique, en sculpture, en peinture, pour être au plus proche de la réalité scientifique. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement si l'on veut montrer un aigle en vol. Pour y arriver, on regarde des photos, des films, et on bricole.
Speaker C.
Je m'occupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours 2 pour le faire. La salle fait 1000 m², c'est un gros chantier. Une fois le thème défini, les dinosaures, les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid.
Speaker D.
Je suis systématicien. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à tel milieu? Comment elle a évolué au fil des ans pour survivre? Moi, j'observe des insectes microscopiques, les collemboles. Un mois par an, je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher, à Madagascar, en Argentine, en Antarctique. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans 100 ans, tandis qu'elles auront peut-être disparu de ce monde.
Speaker E.
Le quotidien du paléontologue, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Un métier de passion. À 20 ans, j'ai trouvé une dent de requin de 15 cm datant de 12 millions d'années. J'en ai gardé un sourire béat pendant une semaine. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans les fossiles de poissons. 2 à 3 mois par an, je pars en chercher en France, en Iran, en Russie et au Vietnam. Avec les collègues de ces pays, on passe des heures à casser la roche au marteau, à rouler d'un lieu de fouille à l'autre, à constater à quel point la vie sur Terre est brève.
Speaker F.
Je suis dessinateur scientifique. En dessin scientifique, tout part de la précision du trait et des proportions. Je ne fais pas de l'art, je montre réalité, celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie, je dessine donc beaucoup d'eau. J'ai réalisé des centaines de dessins pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des artistes publiés par des chercheurs, pour une encyclopédie sur les hominidés, où il a fallu représenter les crânes de Néandertal. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Les secrets du muséum.
Speaker A.
Le Muséum national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles situé à Paris. Ce musée est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle disséminés en France. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer la recherche et explique les sciences au grand public. Tous ceux qui y travaillent ont la passion des sciences. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temps.
Speaker B.
Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. On y naturalise des animaux que des zoos ou l'Office national des forêts retrouvent morts et qu'ils nous donnent. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. Il faut être calé en anatomie, en chimie organique, en sculpture, en peinture, pour être au plus proche de la réalité scientifique. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement si l'on veut montrer un aigle en vol. Pour y arriver, on regarde des photos, des films. Et on bricole.
Speaker C.
Je m'occupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours 2 pour le faire. La salle fait 1000 m², c'est un gros chantier. Une fois le thème défini, les dinosaures, les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid.
Speaker D. Je suis systématicien. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à tel milieu? Comment elle a évolué au fil des ans pour survivre? Moi, j'observe des insectes microscopiques, les collemboles. Un mois par an, je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher, à Madagascar, en Argentine, en Antarctique. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans 100 ans, tandis qu'elles auront peut-être disparu de ce monde. Speaker E.
Le quotidien du paléontologue, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Un métier de passion. À 20 ans, j'ai trouvé une dent de requin de 15 cm datant de 12 millions d'années. J'en ai gardé un sourire béat pendant une semaine. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans les fossiles de poissons. 2 à 3 mois par an, je pars en chercher en France, en Iran, en Russie et au Vietnam. Avec les collègues de ces pays, on passe des heures à casser la roche au marteau, à rouler d'un lieu de fouille à l'autre, à constater à quel point la vie sur Terre est brève.
Speaker F.
Je suis dessinateur scientifique. En dessin scientifique, tout part de la précision du trait et des proportions. Je ne fais pas de l'art, je montre réalité, celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie, je dessine donc beaucoup d'eau. J'ai réalisé des centaines de dessins pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des artistes publiés par des chercheurs, pour une encyclopédie sur les hominidés, où il a fallu représenter les crânes de Néandertal. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание А1-А7. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А1-А7 соответствуют содержанию текста. 1. Вре. Какие не соответствуют? 2. Фо. И о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Обведите номер выбранного вами ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Un CV à rédiger.
Bonjour Anna.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air préoccupée. Tu vas bien ?
Oui, oui, ça va, mais...
Alors vas-y.
Paul, je dois rédiger mon CV, mais je ne sais pas très bien comment on fait en France. Tu sais, toi ?
Un CV français, tu veux dire ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Comment l'organiser ? En combien de parties ?
3 grandes. L'état civil, la formation et l'expérience professionnelle. Tu donnes un titre à chaque partie.
L'état civil, tu dis ?
Oui. Ton prénom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email et ta situation de famille, si tu veux.
Je commence par ça ?
Exact. Ce sont les premières informations. Tu les notes en haut, à gauche.
Je dis mon âge ?
Ton âge ? Oui, c'est plus simple que la date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire.
Et après ?
Tu continues avec la formation.
L'université, les diplômes, les choses comme ça ?
C'est ça. Je ne sais plus très bien. Mais pour toi, c'est Göteborg, non ?
D'accord, pas de problème.
C'est tout ?
Non, attends. Pour l'expérience professionnelle, comme tu as dit, j'indique tous mes jobs ?
Bien sûr. Mais attention, tu notes en premier ton dernier emploi, puis les autres. Tu termines avec le premier, tu vois ?
Je crois. Pour moi, par exemple, je commence par mon poste chez Volvo.
Parfait. N'oublie pas tes stages professionnels ou de langue.
Avant la formation universitaire ?
Non, en fait, c'est une sous-partie de la formation. Tu peux donner un sous-titre aussi.
Voilà, c'est presque tout. Je finis avec les langues que je parle ou mes centres d'intérêt.
Tes centres d'intérêt en dernier. Les langues sont plus importantes.
Merci beaucoup, Paul. À bientôt.
Salut, Anna.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Un CV à rédiger.
Bonjour Anna.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air préoccupée. Tu vas bien ?
Oui, oui, ça va, mais...
Alors vas-y.
Paul, je dois rédiger mon CV, mais je ne sais pas très bien comment on fait en France. Tu sais, toi ?
Un CV français, tu veux dire ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Comment l'organiser ? En combien de parties ?
Trois grandes. L'état civil, la formation et l'expérience professionnelle. Tu donnes un titre à chaque partie.
L'état civil, tu dis ?
Oui, ton prénom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email et ta situation de famille, si tu veux.
Je commence par ça ?
Exact. Ce sont les premières informations. Tu les notes en haut, à gauche.
Je dis mon âge ?
Ton âge ? Oui, c'est plus simple que la date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire.
Et après ?
Tu continues avec la formation.
L'université, les diplômes, les choses comme ça ?
C'est ça. Je ne sais plus très bien. Mais pour toi, c'est Göteborg, non ?
D'accord, pas de problème.
C'est tout ?
Non, attends. Pour l'expérience professionnelle, comme tu as dit, j'indique tous mes jobs ?
Bien sûr. Mais attention, tu notes en premier ton dernier emploi, puis les autres. Tu termines avec le premier, tu vois ?
Je crois. Pour moi, par exemple, je commence par mon poste chez Volvo.
Parfait. N'oublie pas tes stages professionnels ou de langue.
Avant la formation universitaire ?
Non, en fait, c'est une sous-partie de la formation. Tu peux donner un sous-titre aussi.
Voilà, c'est presque tout. Je finis avec les langues que je parle ou mes centres d'intérêt.
Tes centres d'intérêt en dernier. Les langues sont plus importantes.
Merci beaucoup, Paul. À bientôt.
Salut, Anna.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание А8, А14. Вы услышите интервью. В заданиях А8, А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Le dernier métier de la Renaissance.
Jean Nouvel, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de parler de vos projets en cours, accepteriez-vous de nous raconter comment vous est venue l'idée de l'architecture ?
Ah, oui, bien sûr. Eh bien, tout d'abord, il faut préciser que je suis fils d'enseignant. Et pour mes parents, les matières qui comptaient, c'était les mathématiques et le français. L'éducation artistique était pour eux une discipline secondaire.
Si ce n'étaient pas vos parents qui vous ont incité dans l'architecture ?
À vrai dire, l'idée de mes parents, c'était que je devienne professeur ou ingénieur, enfin quelque chose comme ça. Mais heureusement, à 15-16 ans, j'ai rencontré un professeur de dessin qui m'a très vite passionné. Il s'appelait Marcel Devier. Je me rappelle très bien de son nom. C'était un homme de passion, très engagé, dans des activités humanitaires notamment. C'était un artiste local reconnu qui utilisait le couteau, la terre, le sable. Un artiste du Périgord, un artiste libre.
Donc au lycée, vous étiez déjà passionné par l'architecture.
Quand je suis arrivé en seconde, je n'étais pas du tout éveillé aux arts plastiques. Et en quelques leçons, Marcel Devier m'a motivé. Il a su créer le désir et m'inciter à progresser. Il me disait « Fais des choses pour toi, copie des œuvres. »
Et vous avez commencé à faire des copies ?
Il m'a donc proposé de faire de la céramique, des petits carreaux représentant les hauts lieux de Sarlat. Et je ne m'en suis pas trop mal tiré, et la table basse que j'ai réalisée est toujours quelque part chez mes parents. Ensuite, il m'a invité à venir dans son atelier, à tel point que l'on m'a même confié la décoration du foyer des jeunes filles de la ville.
Et après le lycée, où vous êtes-vous dirigé ?
Après ma terminale, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire. Alors j'ai dit « artiste plasticien ». Évidemment, ça a bloqué. Ils m'ont prévenu que je tirerais le diable par la queue toute ma vie et ils ont insisté pour que je suive d'abord une formation sérieuse. Après réflexion, j'ai décidé que je ferais des études d'architecture avant de revenir aux arts plastiques. Et puis, l'architecture m'a intéressé.
Donc, on peut dire que Marcel Devier était un personnage important dans votre vie.
En tout cas, Marcel Devier a changé l'orientation de ma vie. Si j'ai choisi l'architecture, c'était pour les arts. Oui, c'est sûrement le professeur qui a le plus influencé sur mon parcours. S'il n'avait pas existé, je ferais sûrement tout à fait autre chose.
Et maintenant, comment détermineriez-vous votre métier ?
C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe, qui demande du courage. Le talent, en effet, ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale.
Et vous travaillez beaucoup ?
Parmi 300 propositions présentées par mon agence, 30 seulement sont retenues. Et travailler sur un projet qui n'aboutit pas, c'est toujours aussi douloureux. Ça l'est au début d'une carrière, pour des petits projets qui ne comptent pas énormément économiquement. Et ça l'est maintenant avec les gros chantiers qui ont de l'importance pour une équipe entière.
Les 70 collaborateurs de votre agence ont presque tous moins de 30 ans. Leur pays d'origine, leur cursus sont très variés.
C'est cohérent avec le monde tel qu'il devient. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, je leur dirais de faire plusieurs choses en même temps. D'avoir toujours plusieurs centres d'intérêt. L'art, le sport, les langues, peu importe. Ces différents chemins s'enrichissent les uns les autres, ouvrent des possibilités différentes. Être multiple, ça permet d'être plus spécifique, davantage soi-même. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Le dernier métier de la Renaissance.
Jean Nouvel, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de parler de vos projets en cours, accepteriez-vous de nous raconter comment vous est venue l'idée de l'architecture ?
Ah, oui, bien sûr. Eh bien, tout d'abord, il faut préciser que je suis fils d'enseignant. Et pour mes parents, les matières qui comptaient, c'était les mathématiques et le français. L'éducation artistique était pour eux une discipline secondaire.
Si ce n'était pas vos parents qui vous ont incité dans l'architecture ?
À vrai dire, l'idée de mes parents, c'était que je devienne professeur ou ingénieur, enfin quelque chose comme ça. Mais heureusement, à 15-16 ans, j'ai rencontré un professeur de dessin qui m'a très vite passionné. Il s'appelait Marcel Devier. Je me rappelle très bien son nom. C'était un homme de passion, très engagé, dans des activités humanitaires notamment. C'était un artiste local reconnu qui utilisait le couteau, la terre, le sable. Un artiste du Périgord, un artiste libre.
Donc au lycée, vous étiez déjà passionné par l'architecture.
Quand je suis arrivé en seconde, je n'étais pas du tout éveillé aux arts plastiques. Et en quelques leçons, Marcel Devier m'a motivé. Il a su créer le désir et m'inciter à progresser. Il me disait « Fais des choses pour toi, copie des œuvres ».
Et vous avez commencé à faire des copies ?
Il m'a donc proposé de faire de la céramique, des petits carreaux représentant les hauts lieux de Sarlat. Et je ne m'en suis pas trop mal tiré, et la table basse que j'ai réalisée est toujours quelque part chez mes parents. Ensuite, il m'a invité à venir dans son atelier, à tel point que l'on m'a même confié la décoration du foyer des jeunes filles de la ville.
Et après le lycée, où vous êtes-vous dirigé ?
Après ma terminale, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire. Alors j'ai dit « artiste plasticien ». Évidemment, ça a bloqué. Ils m'ont prévenu que je tirerais le diable par la queue toute ma vie et ils ont insisté pour que je suive d'abord une formation sérieuse. Après réflexion, j'ai décidé que je ferais des études d'architecture avant de revenir aux arts plastiques. Et puis, l'architecture m'a intéressé.
Donc, on peut dire que Marcel Devier était un personnage important dans votre vie.
En tout cas, Marcel Devier a changé l'orientation de ma vie. Si j'ai choisi l'architecture, c'était pour les arts. Oui, c'est sûrement le professeur qui a le plus influencé sur mon parcours. S'il n'avait pas existé, je ferais sûrement tout à fait autre chose.
Et maintenant, comment détermineriez-vous votre métier ?
C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe, qui demande du courage. Le talent, en effet, ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale.
Et vous travaillez beaucoup ?
Parmi 300 propositions présentées par mon agence, 30 seulement sont retenues. Et travailler sur un projet qui n'aboutit pas, c'est toujours aussi douloureux. Ça l'est au début d'une carrière, pour des petits projets qui ne comptent pas énormément économiquement. Et ça l'est maintenant avec les gros chantiers qui ont de l'importance pour une équipe entière.
Les 70 collaborateurs de votre agence ont presque tous moins de 30 ans. Leur pays d'origine, leur cursus sont très variés.
C'est cohérent avec le monde tel qu'il devient. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, je leur dirais de faire plusieurs choses en même temps. D'avoir toujours plusieurs centres d'intérêt. L'art, le sport, les langues, peu importe. Ces différents chemins s'enrichissent les uns les autres, ouvrent des possibilités différentes. Être multiple, ça permet d'être plus spécifique, davantage soi-même. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.